Bonsoir tout le monde. Moi c'est Adelfort. Je suis très content d'être ici ce soir. Parce que Velvetine, c'était un collectif que je regardais quand j'étais étudiant. Et du coup, je suis content d'être, d'avoir une fonte dans leur fonderie. Moi je suis ASCII artiste. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'ASCII art, j'essaierai de l'expliquer un peu, mais grossièrement c'est dessiner avec du texte. Et je vais vous présenter mon travail, mais aussi JGS Font, qui est la fonte qui sort sur Velvetine aujourd'hui, qui est la fonte que vous voyez à l'écran, qui est une fonte que j'utilise pour dessiner en fait. Et que j'ai faite pour dessiner. Et j'ai dû commencer à la faire, je crois, en 2018. Et je suis très lent à la faire, mais petit à petit, et en dessinant et en regardant d'autres dessins d'ASCII artistes, je l'ai amélioré. Avec la fonte, il y a aussi un article que j'ai écrit à l'aide aussi de gens de Velvetine. Et je remercie Ariel, qui n'est pas là, et Julien pour m'avoir traduit l'article et aidé à le rédiger. Qui parle de l'ASCII art, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que c'est son histoire. Raphaël, il parlait des arts en mode texte, puisque en fait l'ASCII art, ça désigne spécifiquement les dessins dessinés avec l'ASCII, c'est-à-dire l'American Standard for Information Interchange, qui est en fait le premier format d'encodage des caractères numériques, qui en fait contient très peu de caractères, à peu près 255, si je ne dis pas de bêtises. Et qui contient que des caractères anglophones, donc pas d'accent, etc. Et en fait, il y a beaucoup de... Je vais essayer de pas trop m'étendre sur le sujet, parce qu'il y a énormément de pratiques autour des armes de texte, ou de l'ASCII art, puisque l'ASCII art, le terme, il tend à englober toutes ces pratiques. Mais il y a autant d'ASCII art qu'il y a d'encodage de caractères différents. Puisque maintenant, on est par exemple dans l'Unicode, qui contient... à la fois l'ASCII, mais toutes les langues grecques, cyrilliques, asiatiques, etc., où du coup il y a des millions de caractères, je crois. Du coup, on est loin des 255. Et donc je continue un peu là-dessus, mais ce que j'essaye de développer un peu dans cet article, c'est que avant même l'ordinateur, il y a une pratique des arts en mode texte, même si c'est assez peu connu, notamment avec la typographie, notamment avec la typographie au plomb. Ça, par exemple, c'est une illustration qui date du 18e siècle, si je ne dis pas de bêtises, fin 18e, je crois, où c'est en fait un apprenti plutôt dans une imprimerie qui, sur son temps libre, a dessiné avec des caractères typographiques au plomb. Et on retrouve ça aussi de manière un peu pragmatique où... certains imprimeurs, quand ils n'avaient pas des beaux caractères pour délimiter on va dire les pages ou faire des frontispices, ils devaient bien faire avec ce qu'ils avaient. Et du coup, ça arrivait qu'ils utilisent des glyphes de ponctuation pour faire de la décoration. D'ailleurs, ces deux références, c'est Heikki Lotvonen, j'espère que je prononce pas mal son nom, qui me les a donné, qui fait aussi du text mode et qui m'a pas mal aidé aussi. Je ne sais pas si j'aurai le temps de parler de son travail dans ma présentation, mais disons qu'il y a beaucoup de gens qui gravitent autour de cette pratique. Je suis un peu nul à l'oral aussi, alors j'espère que ça va aller. Alors, la fonte, elle s'appelle JGS Font, parce qu'en fait, c'est une fonte qui est en référence à Johan G. Stark, qui est une ASCII artiste qui a été très prolifique pendant les années 90 et 2000. Et dont j'apprécie vraiment le travail. C'est une ASCII artiste qui a popularisé le line style, c'est-à-dire un peu dessiné avec des caractères par le contour, comme la ligne claire en bande dessinée. C'est pas la première, mais elle fait quand même partie un peu des pionniers. Elle a commencé en 95. Je vais pas m'étendre sur le contexte technique dans lequel ça a commencé, parce que je vais plutôt après switcher sur peut-être mon travail et la fonte en elle-même, mais peut-être y revenir après. Mais en attendant, ça c'est le site de Johan G. Stark qui a été archivé, puisqu'il n'est plus en ligne, mais il est archivé à de nombreux endroits sur Internet. Et ça, c'est quelques-uns de ses dessins, dont son premier Asciart. Son premier Asciart publié, je crois. Et ça, c'est la page créatures mythologiques et dragons de son site. Elle a dessiné énormément d'Asciart, que ce soit tous les sujets folkloriques possibles, que ce soit de mythologie ou objets du quotidien, paysages. Elle a dessiné énormément de dessins en ASCII. Et du coup, c'est pas, en me basant beaucoup sur ce type de dessin que j'ai dessiné la JGS Fonte. Je vais faire un petit essai en passant son site avec ma fonte pour voir ce que ça donne, même si c'est un peu hors contexte. C'est une démo. Voilà. Et du coup, ça, c'est les dessins de JGS avec la JGS Fonte. Et je sais pas si c'est la manière la plus claire d'aborder le sujet, mais ce qu'on peut voir, c'est que notamment les diagonales et les parenthèses se sont rejointes dans le dessin. Mais ce qui est plutôt une spécificité d'un autre style d'Asciart, mais je sais pas si je vais arriver jusque-là dans mon histoire. Alors, je vais vous montrer... Avant de continuer sur ma pratique d'ASCII, en dehors de faire de l'ASCII-Art, je suis aussi graphiste et web designer. Avec un ami à moi qui s'appelle Vincent Maillard. Et on fait des sites web. Et ça, c'est notre site web qui s'affiche. Et on vient juste de se former en duo. Et du coup, j'en profite pour vous montrer ça. Très rapidement. Voilà. Ça s'appelle Protocole Astral. N'hésitez pas à nous contacter. Donc je reviens sur mon site et JGS Fonte. Ce site, il est entièrement fait avec la JGS Fonte. C'est que du texte et des liens. J'archive mes Asciart depuis que j'ai commencé à les faire à peu près en 2018-2019, mais je crois que 2018, je n'en ai pas mis parce que c'était pas terrible. Mais il y a par exemple l'affiche que j'ai fait rapidement pour ce soir pour l'événement. Oui, il y en a beaucoup. Oui, ça m'est arrivé de faire des affiches. Ça, c'était pour une algorithme à Lyon en 2022. Alors, on peut changer... Ah oui, alors si, ça va être intéressant, on va dire. C'est que la JGS Fonte, elle se décline en plusieurs versions. Ça, c'est la version JGS 7. 7 parce qu'elle fait 7 pixels de large et 14 de haut. Et du coup, il y a aussi la JGS 5. Et qui est du coup 5 pixels de large et 10 de haut qui apparaît plus petite. Et la JGS9 qui fait du coup 9 pixels de large et 18 de haut qui apparaît plus grosse. Et aujourd'hui, j'ai une nouvelle version. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est des fonds de pixels, pixelisés. Et aujourd'hui, j'ai réussi, parce que ça fait longtemps que j'essaye de le faire, à en faire une version vectorielle qu'on a vu rapidement. Sur le site de Johan Slark. Alors il me semble que j'avais ouvert une page avec ça directement, mais peut-être pas. Du coup je vais refaire ce que j'ai fait tout à l'heure avec mon propre site. Alors ouais, c'est... voilà, et ça c'est la JGS Fonte sans numéro du coup dans le nom, qui est vectorielle, c'est-à-dire qu'elle n'est pas en pixels, et pourtant les caractères se rejoignent et les parenthèses se rejoignent aussi. Alors, je vais essayer de la décrire un peu. J'ai essayé de la rendre la plus géométrique possible, de manière à ce que les caractères ils puissent être abstraits, un peu sortis de leur contexte, comme le O ou le U majuscule, de manière à presque faire disparaître le texte pour qu'on ne voit que du dessin. Une espèce de manière d'exagérer l'intention de la ski art. Après, j'ai beaucoup bataillé pour trouver des proportions pour que, par exemple, l'accent aigu rejoigne la parenthèse du dessus, même si les caractères se touchent pas, parce qu'il faut que ça reste quand même un peu lisible. Par exemple, la parenthèse rejoint le slash. Et du coup, il y a ce principe comme ça où les caractères ils se combinent en fait entre les lignes, entre les caractères, des fois dans toutes les directions, comme un peu le pourcentage par exemple, qui fait des trames en fait si on met ensemble, pareil pour les deux points. Il y a des caractères qui, on va dire, j'ai fait exprès de vraiment limiter les formes, c'est-à-dire que l'accent circonflexe c'est un V à l'envers, quoi. Et il rejoint le tiret du milieu, qui rejoint l'apostrophe, qui rejoint l'underscore, qui rejoint le point, qui rejoint le tiret du milieu. Ce qui permet de faire ces formes. Je vais montrer un dessin un peu complexe, peut-être, pour voir. Alors, l'avantage d'une fonte vectorielle, c'est que je peux redimensionner et que ça garde l'effet de continuité. Et en fait, c'est pour ça que je faisais une fonte pixel auparavant, parce que c'était le moyen le plus simple pour que les caractères se rejoignent bien, puisque du coup, ils se rejoignent au pixel près. C'est-à-dire que si je repasse en fonte pixelisée, on va essayer de regarder ça de plus près. Voilà, par exemple, là, c'est simple de faire se rejoindre les diagonales parce que le fait que ce soit des pixels, ça se chevauche bien en diagonale. Mais si, c'est un peu abstrait ce que je dis, mais il faut imaginer que si on le met en vectoriel, bah, soit ça coupe, puisque ça dépasse le caractère, soit il faut tricher, faire dépasser le caractère de du glyphe pour qu'il puisse se rejoindre avec d'autres caractères. Ce qui se passe avec la version d'aujourd'hui, on va dire. Ah oui, du coup, je voulais montrer un dessin qui est... ici. Du coup, c'est un dessin où on peut dézoomer un peu. Et ce dessin, on voit bien qu'on peut... Enfin, il y a des trames, il y a des effets de continuité. On peut s'amuser à dessiner avec la typo aussi. Alors, je pense que j'ai un peu fait le tour de la fonte. Je ne sais pas si c'est très clair, mais voilà, c'est ça la JGS fonte. Alors après, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de faire des jeux vidéo avec aussi. Sur mon site, il y a une partie jeu. Il y a un jeu qui est en développement depuis assez longtemps et qui est je vais le montrer en premier, qui est un jeu de plateforme. Là, il est rendu avec la JGS7, mais je vais direct le mettre avec la nouvelle parce que elle est mieux. Oui, on peut copier-coller, on peut faire un screenshot dans son presse-papier de son ordinateur. Et du coup, c'est un jeu de plateforme où on peut ramasser des pièces, il y a des obstacles. L'avantage du texte, c'est qu'on peut le combiner, et du coup, ça m'a permis de faire un environnement un peu génératif où il y a... Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire si je parle de tile set, qui est dans les jeux vidéo, c'est une manière de dessiner des maps ou des décors, où en fait c'est une sorte de fonte mais de décor, où par exemple il y a des morceaux de sol ou des morceaux de bâtiment. Et disons que là j'ai un peu fait des tilesets en texte qui permettent de combiner des morceaux de sol pour créer cet effet de sol et qui eux-mêmes sont dans des morceaux plus gros de terrain qui se combinent entre eux. Et du coup, il y a un peu une mise en abîme de la combinaison un peu partout, quoi. Après, bon, je sais pas quand est-ce qu'il sortira ce jeu parce que c'est très long à faire. Et j'ai tendance à des fois complètement arrêter et faire autre chose. Mais j'ai fait des jeux. J'ai un jeu qui est un peu bien, qui est fini. Qui s'appelle Everlasting Household Love. Alors, je fais un peu de musique aussi. Je sais pas si on va entendre. Qui est un jeu où en fait on incarne un fantôme, le fantôme d'un domestique dans un manoir qui doit nettoyer le manoir avant la résurrection de son ancien propriétaire et qui évidemment est occupé par des nouvelles personnes. Donc si jamais il est ce jeu là, il est pas mal, il est terminé, mais les autres c'est un peu pas terminé. Il y a un jeu pour jouer à saute-mouton aussi. Je veux pas trop les montrer parce que je les aime pas trop. Il y a ça qui était un petit test. C'est un peu un joint jump minimal, quoi. Joint jump, c'est le nom du jeu que j'ai montré au début. Où en fait, on joue avec un dièse qui laisse des traînées de plus et d'étoiles. Alors. Les caractères de trame qu'on voit, ça c'est typique de l'ANSI Art. C'est des caractères semi-graphiques, comme on dit. Il y a pas mal de systèmes anciens qui ont inclus dans des typographies des caractères destinés à créer des visuels, puisque sur ces systèmes, il n'y avait pas de possibilité de faire des pixels ou de faire du dessin ou des vecteurs. Du coup, il fallait bien trouver un moyen de faire des graphismes sans faire dans ce qu'il y avait, c'est-à-dire des fontes. Du coup, ça, c'est des glyphes de texture plus ou moins foncées, quoi, qui sont du coup dans l'Unicode maintenant, qu'on retrouve dans les fontes TTF si on le souhaite ou OTF. D'ailleurs, je crois que récemment, pour ceux qui suivent un peu l'Unicode, il y a différentes tables de caractères. Comme je parlais de l'ASCII, il y a le latin pour les caractères avec des accents, donc il y a le latin 1 supplément, etc. Et c'est tout un tas de tables qui ont des noms différents selon leur fonction. Du coup, il y a la table pour les caractères cyrilliques, etc. Et récemment, ils ont sorti une table qui s'appelle Legacy Computing, qui reprend des glyphes très spécifiques de certains consoles en mode texte. Ou par exemple, on va le regarder, parce que c'est cool. Tu veux dire le nom de la fonte originale en ANSI? Alors, je crois que, en tout cas, la fonte un peu populaire qui a popularisé. C'est notamment sur. C'est une fonte Microsoft, je crois, MS-DOS. Oui, alors c'est une fonte d'IBM à la base. Mais dans la communauté ANSI Art, on la connaît plus pour son usage sous MS-DOS. Puisque je crois que sur IBM, elle est en noir et blanc. Et sur MS-DOS, on pouvait mettre une couleur de fond, une couleur de glyphe. Allez, petite digression, qu'est-ce que c'est l'ANSI Art? Parce que du coup, on a vu ce que c'était un peu l'ASCII Art. Mais il y a un autre style d'ASCII qui est l'ANSI. Est-ce qu'il y a un exemple? Moi, j'aime bien LDA. Je vais chercher LDA.
Il y avait un terminal qui avait des couleurs aussi.
Il y a le Commodore. avec le PETSCII qui du coup crée. Enfin voilà, ça, par exemple, il y a le ASCII pour l'ASCII, il y a le ANSI pour le CP437, il y a le PETSCII pour le Commodore PET, qui est un ordinateur un peu destiné aux jeux vidéo, qui date de 83, je crois, je sais plus. Alors ça, par exemple, c'est du texte aussi, en fait. On peut voir les initiales de LDA. Et on retrouve ces caractères qu'on voyait juste avant dans le jeu que je vous ai montré. Il y a aussi des demi-caractères qui sont pas mal utilisés en NCR, ou des quarts de caractères. Alors là, je crois que d'avoir dézoomé, ça déforme un peu le truc, non? Ah non, ça doit être fait exprès. Bah, du coup, là, il y a une petite virgule, par exemple, qu'on peut voir au milieu de ces caractères semi-graphiques. Voilà pour mes jeux. Après, j'essaye des trucs un peu différents. J'essaye de faire du pixel art, mais avec des fontes. Et du coup, ça, c'est... je me suis fait un petit logiciel pour inclure une fonte en bitmap que j'ai faite pour dessiner ce genre de choses. Je peux peut-être le montrer, qui s'appelle OSCII. Ça permet de dessiner aussi en couleur. Là, celui-là, il est pas mal. Je sais plus où il est sur mon ordinateur, par contre. Oups. Ah oui, je crois qu'il s'appelle LibLab sur mon ordinateur. Alors... Oui, alors voilà, donc je fais une typo, je fais des ASCII, je fais des jeux, et je fais aussi des logiciels pour dessiner avec des typos ou un peu plus des pixels. Du coup, là, il y a la petite... l'espèce de petite matrice là qu'on voit ici, ça reprend en fait l'ordre des caractères sur le clavier. Et en fait, c'est leur correspondance en caractères semi-graphiques. Du coup, là, si j'appuie sur A, ça fait ce caractère-là, qui se highlight un peu si je fais Z. Et il y a différentes sheets de... Je sais pas comment dire, feuilles de caractères, pour faire différents types de formes. Après, on peut aussi écrire. On peut aussi... ça, c'est typique de l'ANSI Art. Par exemple, changer la couleur du caractère et changer la couleur de fond. Et notamment l'inverser, du coup, pour obtenir des nouveaux glyphes, en fait, presque. Hop. Copier-coller. C'est pas mal de copier-coller des pixels.
Est-ce que c'est volontaire de ne pas utiliser la souris ?
Oui. C'est que quand je dessine. Oui, c'est peut-être un détail, mais je dessine que au clavier. Et je sais pas dessiner à la souris, quoi. Il y a beaucoup de gens qui font de l'ANSI Art avec des tablettes, par exemple, parce qu'il y a des logiciels comme Moebius qui est compatible avec des tablettes. Si je mets. Peut-être si je mets. Tiens, tout Moebius Editor, voilà. Mais on peut aussi dessiner au clavier avec. Je sais pas si je veux trop m'aventurer là-dedans, mais je fais.
Ouvrir un dessin que t'as déjà fait.
Il y a dessus. ah oui, si, je peux l'ouvrir dans le logiciel, tu veux dire. Alors. Ah oui, c'est vrai que. Alors, ils sont où? Ils sont où? Je sais pas si je vais les retrouver parce que ça fait longtemps que j'y ai pas touché. Parce que ça fait un peu partie de cette habitude de faire un truc et puis d'arrêter. Et puis... Si, il y en a là. Hop, qu'est-ce que c'est ça? On peut dézoomer. Ah oui, j'essaye de faire un jeu aussi avec ce logiciel, du coup. où ça sera une espèce de RPG. Mais là, c'est vraiment en développement. Alors, je ne sais pas si je peux trop montrer. J'ai fait des espèces de monstres génératifs comme ça, avec des bouts de exportés directement depuis le logiciel. Est-ce que je peux me balader dans le donjon ? Ouais, non, ça marche pas. Désolé. C'est Oui.
Pour ce qui est de l'animation, est-ce qu'il y a des presets pour ça ou tu fais tout aussi à la main ?
Alors, l'animation en ASCII art, c'est un truc qui a un peu commencé à exister avec le JavaScript. Il y a des ASCII artistes qui font des animations depuis du coup les années 2000 sur le web, mais il n'y a jamais eu de standard pour ça. Et du coup, il y a un peu chacun y va de sa méthode. Moi, par exemple, j'ai un peu copié Standard Combo, qui développe un jeu qui s'appelle Stone Story RPG. Enfin, d'ailleurs, il est déjà existant. Qui est un jeu complètement en ASCII art, qui est hyper beau. C'est assez cool comme jeu, notamment il y a une scène au début du jeu où on traverse une rivière avec un canoë, c'est hyper beau. Bon, désolé, du coup, j'embraye pas du tout sur les animations, j'embraye sur les jeux en ASCII, mais si pour faire simple, du coup, Standard Combo, c'est son pseudo qui fait le jeu. Lui, sa méthode, c'est... J'ai pas de feuille à lui sur mon ordi, mais j'ai fait un truc à peu près similaire pour animer. Faut que je le retrouve. Je suis pas dans le bon dossier. Voilà. En gros, l'idée, c'est dans le fichier texte de déclarer des frames, et c'est comme ça qu'il fait. En disant qu'il a créé son parseur d'ASCII art, et j'ai un peu repris le même principe où du coup les frames sont dessinés dans le fichier. Je définis la durée de la frame. Et par exemple, j'ai rajouté une petite commande Boomgy pour dire que l'animation elle est en va-et-vient. Et ça a toujours été un peu comme ça, c'est souvent comme ça que ça a été résolu. Mais il n'y a jamais eu de standard web pour ça. Peut-être que je peux montrer à quoi ça ressemble. Non. Désolé, je suis en train de travailler dessus, alors... On ne verra pas. Après,
juste pour en revenir sur le caractère, oui. JS, il est publié et disponible aujourd'hui chez Velvetine,
oui.
C'est ça ? Mais il y a des spécimens, des planches de présentation un peu officielles du caractère ?
Il y en a une, mais elle n'est pas terrible. disons qu'elle date en fait, je me suis dépêché de faire la version vectorielle pour aujourd'hui, parce que j'avais vu que je me suis rendu compte que c'était possible... Je me suis dit que j'allais le faire, mais du coup, le spécimen, il ne la prend pas en compte. Ce spécimen, là, il ressemble à ça. Et ça reprend un peu le principe de mon site. Je pense que mon site, c'est un peu le meilleur spécimen que je puisse faire pour la fonte, peut-être. C'est un peu bizarre de parler de spécimen. Enfin, j'ai essayé de faire un spécimen comme ça. Mais de toute façon, tout ce que je fais, c'est avec cette fonte. Alors. Euh... D'ailleurs, elle ne se met pas à jour, enfin, c'est n'importe quoi. Mais elle est sur Velveteen, ici. Et si, normalement, si vous la téléchargez, vous avez un zip avec la fonte JGS5, la version vectorielle, la JGS7 et la... Ah non, c'est ça la JGS5, ça c'est la JGS9, et ça c'était la JGS7. Maintenant, j'ai plus du tout d'ordre dans ma présentation. Je peux vous montrer rapidement l'article, peut-être. Voilà. Et je parle de la SkiArt. Je parlais du PET-SKI tout à l'heure. Ça, c'est de l'ANSI, par exemple. Les premiers mèmes étaient en ASCII art et notamment en ShiftJIS, c'est le style d'ASCII propre au caractère japonais et s'appelle ShiftJIS parce que c'est les claviers japonais, je sais pas exactement lesquels, mais qui ont une commande avec Shift, tu passes en que je le prononce bien, en katanaka, katakana. Et du coup, il y a toute une pratique de dessin avec le katakana. Et notamment, ce personnage iconique d'Internet, Pedobir, qui en fait était d'abord dessiné en katakana sur Toutchan. Pareil pour Domo. Et moi, j'étais surpris de voir que en fait, c'était d'abord des ASCII avant d'être des dessins vectoriels ou des peluches, quoi. Et d'ailleurs, peut-être que ça donne un peu la spécificité de leur forme, là, comme ce tout petit pied bizarre. En fait, on voit bien que c'est dû à l'expressivité de le dessiner avec un U, quoi. Il y a des imprimeries au Moyen-Orient qui utilisaient des caractères de décoratifs pour faire des frontispices. C'est assez intéressant. Ça, je vous l'ai déjà montré. Il y a des artistes qui utilisaient les caractères en plomb pour faire des trucs, des illustrations de fous. Ça, c'est Albert Schiller. Il y a aussi, évidemment, de l'ASCII art de la machine à écrire, du coup, le typewriting art. Cet exemple, il est assez intéressant. C'est Bob Neal qui a fait un livre pour reproduire des ASCII art faits avec la machine à écrire. Il a écrit des lignes de commande qui permettent de l'automatiser avec potentiellement un ordinateur ou de les refaire à la main. C'était pas relié à une machine spécifique quand il l'a fait, si je dis pas de bêtises. Je sais pas, je suis pas sûr de ça. Après ça, c'est James Cook qui peint sur le motif des choses avec sa machine à écrire. Donc là, c'est peut-être bien que je parle de ça, que j'en ai pas parlé. Donc en fait, moi, je suis vraiment arrivé dans l'ASCII art par les dessins de JGS que j'avais déjà vus et d'autres gens comme Du ou HJWV ou il y a tout un tas de. Il y a toute une scène des ASCII artistes de Usenet, qui était un réseau social, on va dire pré-internet ou des débuts d'internet dans les années 90-2000, qui échangeait beaucoup d'ASCII art et qui avait des news groups destinés à l'ASCII art, dont le groupe alt.ascii.usenet. Si je dis pas de bêtises, comment ça s'écrit ? alt.ascii-art. C'était là-dessus que JGS et d'autres artistes échangeaient leur ASCII art. C'est des gens qui dessinaient plutôt avec des fontes Microsoft ou Mac. Du coup, soit avec la Courrier, soit avec la Monaco ou la Menlo. Mais moi, j'ai en fait utilisé assez vite la Topaz Plus. Qui est en fait une fonte qui n'est pas du tout de cette scène d'ASCII, qui est une fonte qui est plutôt liée au Commodore, mais au Line Style sur Commodore. qui du coup, sur le Commodore, il y avait le PETSCII, mais il y avait aussi une forme de Line Style qui est le Solid Style ou le Amiga Line Style, qui ressemble à ça. Et il y a un projet qui s'appelle Multiplatform Font in Amiga Aspect, fait en 2009 par le groupe True School ASCII, où ils ont passé en TrueType des fontes historiques de l'Amiga qui étaient utilisées par la démo scène de l'Amiga ou la scène ASCII de l'Amiga. Et en fait, j'utilise la Topaz Plus qui est issue de ce projet. Et ce qui est intéressant avec la Topaz Plus, c'est comme les fontes PETSCII et la plupart des fontes Amiga, c'est qu'elles ont cette caractéristique des barres obliques et des caractères qui se rejoignent. Et qui est à l'origine d'un programme fameux qui est le 10, qui est en basique, qui est le 10 print char. Donc ça, c'est l'index du char 205, je crois, plus random 1, c'est-à-dire que c'est une commande qui imprime au hasard le slash ou l'anti-slash, puis qui revient à la ligne, et qui permet de créer des labyrinthes infinis, en fait. Et du coup, ça, c'est une commande qui est hyper intéressante parce que c'est très compliqué en programmation de faire des labyrinthes cohérents. Et ça, en trois fonctions, ça permet de créer des labyrinthes hyper cohérents, visuellement en tout cas. On peut même s'amuser avec. Et moi, j'ai vraiment été hyper marqué par cette particularité que les caractères se rejoignent. Pour moi, c'était vraiment une matérialisation de l'intention de l'ASCII art quand il fait un dessin, quoi, de que les caractères fassent des lignes, en fait, entre eux, ou des trames. Je pense que ce que j'ai vraiment essayé de dessiner la JGS fonte comme ça, à la fois pour, on va dire, bien correspondre au style un peu folklorique de JGS et du line style, on va dire, Usenet, mais aussi pour vraiment essayer de faire disparaître le texte derrière le dessin, comme le font un peu les fontes Amiga, quoi. La différence peut-être avec les fontes Amiga, c'est que généralement, il y a des caractères qui sont destinés pour le dessin, même si les barres obliques et les parenthèses sont un peu un hybride. Moi, je pense que j'ai essayé en quelque sorte que tous les caractères soient un hybride le plus possible, tout en faisant en sorte qu'ils puissent encore être lisibles. C'était un peu mon but, quoi. J'ai essayé que cette fonte, elle corresponde à sa version bitmap, c'est-à-dire que... normalement, sur mon site, si je me mets la nouvelle la JGS fonte vectorielle, elle devrait ressembler au pixel près à la JGS 7, en fait, quand on la met à 14 pixels de haut. Parce que j'ai essayé de faire en sorte que le dessin du caractère il corresponde aussi à la grille bitmap et qu'il se cale lui-même quand on le réduit à la bonne taille. Ou qu'on l'agrandisse avec des multiples de sa valeur en pixels. Ça, c'était une image pour bien montrer, on va dire, la différence que ça produit. Comment on peut interpréter des caractères, on va dire, de programmation ou de ponctuation en dessin abstrait, presque. Je me suis rendu compte récemment qu'il y avait une fonte qui est assez connue, qui s'appelle la Fiera Code, qui en fait a ce principe pour les caractères typographiques liés à la programmation et qui a produit plein de ligatures. Les ligatures, c'est des caractères qui viennent remplacer deux caractères. Et en fait, eux, ils ont fait tout un travail de ligatures pour remplacer des combinaisons de caractères souvent utilisés en programmation. Donc d'un coup, plus petit que égal, ça devient ce caractère. Et je m'en suis rendu compte que récemment, c'est très très proche de ce que j'ai voulu faire. Ils ont fait pareil avec les dièses. Et du coup, j'ai essayé de les copier un peu pour mes exemples. Mais voilà. Parce que c'est marrant, cette fonte, je la connaissais, mais j'avais jamais capté qu'il y avait ça, quoi. C'est assez beau. Un tilde arrobase, par exemple. Après, c'est des ligatures. Moi, il n'y a pas le choix. C'est les caractères, ils se combinent avec les autres, c'est tout. Et du coup, Elle est un peu bizarre pour écrire, je pense, ou lire, peut-être. Après. C'est là, par exemple, concrètement, si la fonte elle est utilisée dans sa version avec ligature, faire plus plus, ça va être compris par le programme qui est la fonte, c'est-à-dire le fichier TTF ou je crois qu'il y a des ligatures hein, sur TTF, sur OTF, qui va aller chercher un autre glyphe qui correspond à ces deux, à cette combinaison des deux glyphes. Et du coup, il va dans l'affichage même du texte, il va comprendre qu'il faut mettre un autre glyphe alors que tu en as mis deux autres. Je sais pas si c'est. Voilà, c'est ça. Et.
Dans des fonds plus classiques, par exemple, quand il y a deux T à la suite, si ça va lier ouais. les deux barres de F ou le FL, des choses comme ça. Ouais. Par exemple, d'avoir des trucs coupés. En fait.
Par exemple, à la place de taper trois points pour faire des points de suspension, tu tapes alt point et ça fait une ligature qui est un glyphe qui remplace trois glyphes.
Il y a des systèmes où tu vas pouvoir stocker ta ligature telle quelle dans le code source.
En fait, tu la dessines comme un, tu la dessines un certain index de l'Unicode et tu dis à ta fonte que cette ligature correspond à cet index.
J'avais un doute sur ce que tu as expliqué. Toi, tu utilises le système de ligature, ou bien tu as dessiné d'une manière qui se raccorde en tout.
Voilà, c'est ça. Il n'y a aucune ligature. Ça se combine parce que les. Allez, je vais ouvrir le fichier Inkscape. Je sais pas trop. J'avoue que c'est un peu un mystère pour moi. Et même, je me demande, d'un point de vue, ils ont dû, pour que ça reste monospace, pour transformer 3 caractères, ça doit être 2 sur 2 caractères à partir de 3. Enfin, je sais pas du tout comment. J'ai pas essayé. J'ai perdu Inkscape. Et donc, concrètement, les caractères ils se combinent parce qu'en fait, ils sortent de la carrière. Et par exemple. Lui, si je les mets l'un à côté de l'autre, il va déborder un peu là en bas. Là. Si je le mets en diagonale, il va se combiner. Alors, les parenthèses, au début, je faisais un cercle parfait, mais en fait, c'est assez laid parce que c'est pas tout à fait utilisé comme un cercle parfait, parce que les parenthèses, c'est plutôt un petit bout du cercle sur le côté. Quoi. Et du coup, ça fait plutôt des volutes. Quoi. Genre. Si je le mets l'un au-dessus de l'autre, ça va vite faire un effet de fumée un peu. Hop. J'aime bien l'accolade parce que si on met deux accolades l'une au-dessus de l'autre, ça en fait une troisième. Mais qui est dans l'autre sens. Voilà. Et il y en a une accolade mystère entre les deux lignes. Mais ça illustre bien ce que j'ai essayé de faire, de vraiment, partout où j'ai arrivé à détecter un moyen de rendre un truc géométrique ou de reproduire un motif, j'essayais de le faire. Quoi.
Et toi, si tu es sur deux dimensions, alors que les associations oui. classiques sont sur deux dimensions, oui. toi, c'est sur x et y.
Voilà.
Tu vas chercher la ligne du dessus, la ligne du dessous pour avoir des prétextes pour faire des genres de ligatures. En fait.
Voilà. Par exemple, le dièse, il va rejoindre le caractère des deux barres verticales, qui est un caractère que personne n'utilise mais qui existe. Ou il va rejoindre les deux points d'exclamation, qui est un caractère qui existe aussi, qui n'est même pas une ligature en soi, mais qui existe tel quel.
Et tous les caractères sont accessibles directement avec la ligne, ou obligé d'aller dans un panel de glyphes ?
Non, c'est... Alors oui, alors ça c'est un peu compliqué parce qu'effectivement, comment on fait pour dessiner des caractères qui ne sont pas accessibles au clavier? Moi je vais vous montrer comment je fais moi, mais je ne sais pas si c'est la manière la plus simple. Par exemple, je fais un point d'exclamation. Ah. On zoome. Je ne sais pas, je vais essayer de faire une forme, voilà. Hop, ça va, c'est facile, c'est des caractères accessibles au clavier. Alors voilà, là par exemple, je voudrais l'apostrophe dans l'autre sens, et du coup ça serait plutôt l'accent accent aigu. Eh bien, sur quasiment tous les champs de texte disponibles, on peut demander à insérer un Unicode. Il faut faire CTRL V U et taper l'Unicode. Et je crois que c'est B4, entrée, et voilà. Mais il y en a des faciles, par exemple, le point d'exclamation à l'envers, c'est A1, je crois. Alors, voilà. Donc je fais CTRL V. Alors ouais, ça fonctionne sur Windows. Il y a un truc avec Windows où tu peux faire ça. Mais CTRL V U, je crois que ça marche sur même Firefox, quoi, je crois. Si je fais CTRL MAJ U, il me propose Unicode et je peux taper bon point d'exclamation à l'envers dans le moteur de recherche DuckDuckGo.
Est-ce que tu as mis le point médian, c'est
B7? Oui, il est dans le ASCII, c'est dans le latin 1 supplément. Qui est. C'est B7, mais lui, on peut le faire en faisant. On peut le faire plus simplement en faisant Alt 2 points. Et il est bien pratique pour dessiner lui aussi.
Forcément, pour créer un caractère ASCII, c'est nécessairement du monospace.
Oui. Après, ben, pourquoi pas, le Shift JIS, c'est pas monospace en fait. C'est dessiné avec les caractères katanaka. Katakana, je suis désolé. Et en fait, c'est pas monospace. Et du coup, c'est tout un travail de faire des espaces pour caler. Mais il y a des gens qui ont cette pratique de taper des espaces pour caler les lignes aussi en ASCII. C'est souvent quand on utilise un bloc-notes ou des choses comme ça. Moi, je suis plutôt sur Vim. Du coup, moi, j'ai tendance à utiliser le replace mode où je peux me balader un peu librement. Vim, c'est super parce qu'on peut automatiser des choses. Du coup, là, je lui ai demandé de taper 80 points. Il l'a fait. Je peux lui demander de copier-coller 40 fois. Et du coup, hop, j'ai une grille pour me balader, pour dessiner. Et je peux m'amuser à dessiner. Chose importante, si vous utilisez la... la JGS, vous voyez que selon le niveau de zoom, ça va décaler quand même les caractères. J'ai pas exactement toutes les multiplications, les divisions de la taille qui font que ça tombe juste, mais on peut être sûr que des multiples de 7, ça marche. Après, ça dépend aussi des environnements. À la Kriti, sur le mon logiciel de terminal, il a tendance à faire un peu n'importe quoi avec la fonte. Oui.
Mais là, tu parles de la gate en pixels.
C'est ça.
Ou même proportionnelle.
Alors, oui, ça c'est aussi important, c'est que elle est bien faite, c'est-à-dire que je lui ai dit que son EM size, c'est-à-dire la hauteur du glyphe, elle correspond à la taille de la fonte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de saut de ligne, enfin il n'y a pas de décalage entre deux lignes. Mais j'ai pas fait attention, je l'ai pas fait pour JGS5 et JGS. 9 et 7, où du coup, là, il faut dire que c'est identique. Par exemple, le JGS5, il faut dire font size 10 pixels, line 8 10 pixels. Sinon, ça va se décaler en hauteur. Alors que la JGS font vectorielle, normalement, elle le fait toute seule.
C'est la composition carrée.
Voilà.
C'est la composition carrée. Quand le corps égale l'interlignage, c'est la composition carrée.
Tu utilises quoi comme émulateur de terminal?
Je crois que c'est sur i3 et c'est à la Kriti sur i3 sur Arch Linux.
Et Xterm, ça marche bien justement pour bien aligner.
J'ai vraiment pas trop essayé Xterm pour dessiner.
Il y a des caractères non latins dans JGS.
Oui.
Et quand tu les dessines, étant donné que c'est pas tes langages que tu connais, enfin des langages que tu connais bien ou des formes que tu connais bien, est-ce que tu as des doutes par rapport à l'équilibre réalité du caractère, on va dire cyrillique, versus ce dont j'ai besoin en termes de graphisme, tu vois?
Ah oui, j'ai fait ça vraiment. Je pense que je sais pas si quelqu'un utilise ces caractères, mais en fait, je l'ai même pas fait en référence. Ah, c'est pas ici, pardon. J'arrive pas à le retrouver. C'est là. En fait, j'ai dessiné le peu de caractères grecs et... Je ne sais pas s'il y a des caractères cyrilliques. Je ne les ai pas du tout fait en référence aux grecs. Je les ai fait en référence à Alan Siart, en fait, puisque c'est des... J'ai inclus dans... Bon, on va dire, les règles que je me suis données, c'est l'ASCII, comme set de caractères. Le latin 1 supplément, parce qu'il y a les caractères que j'utilise avec mon clavier dessus. Et après, j'ai inclus les glyphes qui sont présents dans le code page 437. Qui du coup contient des glyphes grecs. Et du coup, je me suis basé sur les glyphes, sur ce dessin-là pour dessiner les glyphes grecs. Alors ça se trouve, c'est complètement n'importe quoi par rapport à la lisibilité.
C'est la façon dont l'ancien voilà. traité grec.
C'est ça.
Ouais, mais comme c'est aussi n'importe quoi pour le latin, ça va.
Voilà. Bah, c'est vrai qu'il y a des caractères, je pense, qui sont un peu bizarres quand même. Par exemple, il y a des trucs rigolos qui se passent. Les apostrophes, enfin les accents, pardon, ils peuvent se mettre sur le underscore ou les barres en bas des caractères. Et d'ailleurs, le underscore, il est situé juste en dessous du caractère. C'est-à-dire que si on fait un underscore et un upperscore, ils sont l'un au-dessus de l'autre. Mais c'est pas le cas pour les JGS 5, 7 et 9. Mais je me suis dit que c'était le mieux pour eux. Parce que ça posait un souci. Si je la fais en vectoriel, où est-ce que c'est ma limite? Alors qu'en bitmap, c'était vachement plus simple. Puisque j'avais cet effet de continuité qui fonctionne sans avoir à faire dépasser les caractères. Ce qui était très difficile à trouver aussi, c'était comment faire en vectoriel les trames ANSI, là. Surtout pour que ça corresponde quand même aux pixels, surtout avec une fonte comme la mienne qui est impair. Qui est du coup basé sur 7 de large et 14 de haut. Du coup, c'est hyper chiant pour trouver un motif qui se répète de manière vectorielle sur une grille impaire. Et du coup, j'ai fait tant bien que mal ces formes-là. Je sais pas si j'ai un bon exemple. Bon, j'ai pas trop d'exemples quand même. Je crois que je voulais dire un truc, mais je me souviens pas. Ah si, quand on parlait des caractères, il y a un ASCII artiste qui a un style vraiment unique, qui s'appelle Dwemer, qui dessine, peut-être que je peux le trouver, sur, qui dessine que avec des caractères complètement improbables de l'Unicode. C'est hyper intéressant à voir. Du coup... C'est hyper intéressant. Alors un que j'aime bien, bon, je sais pas, il y a celui-là par exemple. Et c'est vraiment des caractères, le point d'interrogation à l'envers, le yen, le livre, des caractères comme ce M. Ah non, ça doit être dû à la fonte qui est la Micronite, qui est un peu une fonte. Il utilise. Alors voilà, par exemple, ce F à l'envers, je sais absolument pas quel caractère c'est. Et est-ce qu'il y a un exemple encore pire? Ah si, ça c'est pas mal. Les personnages là en fond, regardez ces caractères quoi. Et Dwemer, c'est spécial comme il travaille, c'est hyper bizarre, il travaille en SSH. Pour ceux qui connaissent, pour dessiner, avec DarkDraw, qui est un fork d'un obscur logiciel SSH de gestion de base de données. Mais qui est hyper pratique pour, en fait, l'intérêt de... Zut, je me souviens plus. Je me souviens plus du nom de ce logiciel. Et je vais jamais trouver DarkDraw, je pense. Parce que c'est trop inconnu comme éditeur, je pense. Ah, sinon... Ah voilà, non? Non, c'est DarkDraw.io, c'est autre chose. Bon, en tout cas, désolé, je me souviens plus du nom de ce logiciel en SSH qui permet de gérer des bases de données. Mais en fait, ils ont inclus un truc qui permet d'accéder. Et du coup, vu que ça gère des bases de données, ça gère facilement l'Unicode en fait. Parce que l'Unicode, c'est énormément de caractères. Et du coup, c'est des commandes au clavier pour accéder très rapidement à n'importe quel endroit de l'Unicode. Et du coup, lui, il a fait un logiciel qui permet de dessiner en SSH tout en appelant, qui permet de dessiner dans un terminal tout en appelant en SSH les commandes de ce logiciel pour chercher dans des bases de données.
C'est pas du tout fait pour le dessin à la
base. Non, pas du tout. Mais l'auteur de ce logiciel dont je me souviens plus le nom, il était très content. Et c'est dommage que je m'en souvienne plus. Parce que je crois que c'est l'outil le plus obscur que je connaisse pour dessiner de l'ASCII.
C'était pour quelle base de données ?
Mais je crois que c'est un peu généraliste. Bon, tant pis.
Peut-être on peut passer aux questions. Si quelqu'un a des questions.
Oui, parce que je peux parler éternellement, je pense, surtout.
Pour les illustrations, tu t'y prends comment dans ta méthode de réflexion ? Tu passes directement, tu fais une grille comme tu as dit tout à l'heure et tu commences à dessiner comme ça ? Ou tu as des croquis ou...
Des fois, je travaille d'après photo. Okay.
D'après référence, mais dans l'imagination, je veux dire.
Je travaille d'après photo, mais c'est souvent comme ça où j'essaye de commencer de rien et j'essaye de trouver des trucs. Après, souvent ce que je fais, c'est que je regarde des ASCII arts et s'il y en a un que j'aime bien, qui a une combinaison que j'aime bien, qui a une manière que j'aime bien, j'essaye de la refaire et j'essaye de dessiner avec ça en fait. Par exemple, récemment, j'ai vraiment aimé les dessins de Moz. Qui a un super style comme j'aime bien façon line style Usenet. C'est la génération de Joanne G. Stark. Usenet, c'est le réseau social sur lequel ils s'envoyaient des ASCII arts à l'époque. Avant, on va dire Internet comme on le connaît, quoi, avec les browsers et tout. Du coup, j'ai vraiment adoré son style, quoi. Et notamment. C'est pas ici, mais il a fait. J'adorais les chiens là. Et du coup, j'ai regardé. Et c'était ce chien là que j'aimais beaucoup, là, celui-là. Et je l'ai regardé et j'ai essayé de le redessiner. Et du coup, j'ai dessiné l'autre chien qu'il y a sur mon site.
Avec le U, genre.
Voilà, c'est ça. Ouais. Il y a pas mal d'ASCII artistes qui font des fanarts beaucoup. Genre, il y en a un, je crois, d'ailleurs, de Moz là qui se balade. Enfin, lui, c'est marrant. Il a repris des tableaux, on va dire, classiques. Il a même repris le dernier souper. Les Simpsons. Alors c'est trop chou. Il a dessiné. Je pense que c'est Ilge. Et il a dessiné sa fille quand elle est née.
Tu l'as passé, je crois.
Je sais plus. Non, je suis pas sûr. Si, je l'ai passé. Voilà. Il y a sa fille à la naissance. Et après, quelques années plus tard, il y a sa fille qui a grandi un peu. C'est vraiment trop bien, quoi. Et aussi, il y a une collection d'ASCII art d'autres gens sur son site. Je sais pas si je vais la trouver. Donc ça, c'est super bien. Il y a plein d'ASCII art et plein de gens. Il y a des listes de qui fait de l'ASCII art. Et ça, c'est une pratique... ça parle de JGS. Alors ça, je pense que ça, c'est une collection des fichiers qui circulaient à l'époque sur les réseaux Usenet. Et il y avait pas mal... Désolé, je vais un peu dans tous les sens, mais il y avait plusieurs types de fichiers. Il y avait un peu des newsletters ASCII où il y avait des listes d'ASCII artistes à l'époque avec leur pseudo sur ou leur site ou leur adresse, etc. Et ça, je pense que c'est un fichier de l'époque. Il y a aussi un super beau fichier où il y a plein d'ASCII artistes qui se sont fait une carte d'identité en ASCII art et qui les ont compilés. Je ne sais pas si je l'ai qui traîne. J'essaie de le trouver. Bon, du coup, je dérive totalement de la question, désolé. Tout à fait.
Il a passé le terminal sur fond blanc aussi, ce qui sympa pour nous, on voit mieux.
En fait, c'est vachement pratique de dessiner du coup sur le terminal avec. Enfin, je veux dire, comme ça, j'ai pas besoin de charger la fonte dans un logiciel ou quoi. Direct, je dessine sur mon terminal, quoi. Est-ce que dans ASCII Artist, yes, license. J'adore ce fichier texte. Et ça, c'est un fichier qui date de ce qui doit dater des années 90.
Oui.
si tu reprends un ASCII existant, tu le composes avec, avec le JS, qui est l'auteur? Parce que c'est pas du tout le même rendu, en fait.
Je pense que la fonte, c'est largement ignoré dans l'ASCII art pour l'instant. C'est une manière de rendre comme un rendu, comme avec un logiciel de 3D, quoi, ou j'en sais rien, un shader, quoi. Mais par contre, c'est intéressant la licence des ASCII art, parce que là, on va rejoindre un sujet un peu dramatique. En fait, Joanne Gestard, qui a arrêté l'ASCII art parce qu'on lui volait ses dessins et qu'elle a été dégoûtée de ça. Et en fait, à l'époque, c'était énormément partagé ses dessins et ça a été notamment utilisé pour faire plein de mèmes, des fois hyper trash, et du coup, sans lui demander, et des fois en enlevant sa signature. Et il y a eu aussi beaucoup de gens qui ont imprimé des t-shirts et qui les ont vendus, qui ont fait des mugs. Et du coup, ça a vraiment dégoûté Joanne Gestard, qui l'a complètement arrêté. Comment elle s'appelle ? Lauren Brown, qui est un peu une disciple. Zut, ça c'est son Twitter, je voulais aller sur son site, Laura Brown. Ah, je crois que c'est asciiartist.com, son site. Ouais, c'est ça. LDB, du coup, qui est un peu une personne qui a connu Joanne Gestard, qui était un peu en même temps qu'elle à l'époque et qui continue aujourd'hui à en faire. Elle en parle un peu dans un article de pourquoi Joanne Gestard qui a arrêté, et elle héberge la page, y a une page à propos de le Respect ASCII Artist Campaign, parce qu'il n'y a pas de licence appliquée aux ASCII art, mais il y a des règles. Si on utilise un ASCII art, il n'y a pas de souci, c'est du fichier texte, on ne peut pas empêcher de le copier, de le modifier, mais il faut garder la signature de l'artiste original. Give respect to the original artist et garde leurs initiales sur le work, des initiales comme JGS par exemple, ou LDB ou ADL pour moi. Et cette page, il faudrait que je la mette aussi sur mon site ou que je la mette en lien. Parce que ça a été un peu fait à ce moment où c'était un peu n'importe quoi à la fin des années 90, où c'était hyper populaire l'ASCII art sur Internet, parce qu'il n'y avait des fois même pas de moyen de mettre des images sur des forums. Du coup, les gens, ils s'envoyaient des ASCII art. Et du coup, il y avait beaucoup de vols, de détournements de ASCII art, parfois pas très heureux, quoi. Ben, il n'y a pas de. Moi, mes ASCII art sont sous licence libre parce que j'ai mis mon site sur Git. Et du coup, tout le site est sous licence libre. Et vu qu'il y a mes ASCII dedans, du coup, j'imagine qu'ils sont sous licence libre. Mais il n'y a pas tellement de rapport à la licence pour les ASCII artistes, quoi. À part cette page, il y a peu de choses qui en parlent.
C'est par défaut, en fait, tout ça, c'est copyright. Enfin, c'est le droit d'auteur. La seule manière de permettre ça, c'est de mettre une licence.
Mais
du coup, tu es obligé de solliciter les auteurs ou les autres.
Après, ça, j'imagine, c'est une espèce de forme de licence manifeste qui a existé à un moment donné, mais qui s'appliquerait automatiquement à tous les ASCII produits, mais je ne sais pas si ça marche comme ça.
Après, j'imagine que c'est comme le texte en général. Si tu tweets un truc, c'est disponible à tous et toutes, mais il y a quand même des règles qui sont. C'est les règles du texte.
Je sais pas du tout, hein, parce que c'est à la fois un dessin et du texte, et du coup, est-ce qu'il y a les mêmes droits d'auteur que pour un livre ou
Les deux sont couverts par les mêmes lois de droits d'auteur.
Et d'ailleurs, est-ce qu'il existe un marché, une demande pour les illustrations en ASCII art? Est-ce que tu as déjà eu des commandes?
Moi, ça m'arrive d'avoir un peu des commandes. Il y a des gens qui m'ont demandé des images de profil ou de fond de background de réseaux sociaux. On m'a demandé de faire pour des t-shirts. C'était Raphaël qui m'avait demandé. Pour toi. Voilà. Il y a des typographes qui m'ont demandé de faire des dessins avec leur fonte monospace, dont Ariel qui est pas là. Enfin, des gens autour de Velvetine, je pense, qui ont vu que je faisais ça. Enfin, du coup, je pense que c'est pas vraiment un marché, c'est plus qu'ils ont dû voir que je faisais ça.
C'est un petit marché.
Voilà.
Des affiches aussi.
D'après, des affiches. Après, j'ai vraiment eu une vraie commande. Il y a un studio suédois qui s'appelle Open Studio qui travaille pour une entreprise qui fait des robots qui vendent des glaces, qui a été fondée par la personne qui a fait Candy Crush, qui m'ont demandé de faire des animations d'escart pour les écrans et pour les écrans dans les boutiques. Et du coup, c'était un peu une vraie commande bien payée et tout, c'était cool. Après, il y a des gens qui m'ont demandé pour des NFT, mais j'ai refusé. Il y a quelqu'un qui m'a demandé de faire un NFO. C'est un truc vraiment typique de la démo scène où quand tu releases du Warez tu mets un NFO dans ton dossier où en fait c'est comme un readme. Enfin, lisez-moi pour ceux qui voient ce que c'est, mais spécial dessiné en ASCII.
Tu sais c'est quoi l'acronyme
de... Je sais plus, non, tu sais?
Non, je pose la question parce que je déteste les NFO aussi.
Mais je sais plus. Ah, c'est ça, ok. Mais c'est, tu penses à
l'inverse? Ça, c'est pour nous.
Mais pour la démo, ça, tu me poses la question, c'était quoi la chronique?
Je crois que c'est un délire avec le SpongeBob speaking avec info.
Ouais.
Je crois, mais je suis pas sûr. Genre, Parce que par exemple, il y a plein de pratiques. On pourrait aller loin, parce que dans les armes texte, il y a à la fois les ASCII art, il y a à la fois les typos pour faire des ASCII art, il y a à la fois les éditeurs pour dessiner avec du texte, mais il y a aussi des manières d'écrire du texte, par exemple, il y a des gens qui dessinent tout le temps les majuscules en minuscules et les minuscules en majuscules, et c'est un peu un style comme faire un graffiti, mais juste avec du texte comme ça, ou qui dessinent des majuscules n'importe où. Je sais pas s'il y a un exemple un peu proche que je pourrais trouver. C'est un truc vraiment typique de la démo scène, quoi. Les Dreamers, ils en font pas trop.
Je propose de clore là le.
Ouais,
ouais.
Il y a une dernière question juste derrière.
Ouais, bah c'était pas vraiment une question, c'est plus. Ça me fait penser à. Pour faire des tissus, en fait, il y a des motifs de trame. Et ça appartient à des cultures, en fait. C'est, par exemple, c'est des motifs de tarton écossais, des motifs au Ghana, il y a des motifs partout dans le monde, il y a des motifs. Mais personne n'est propriétaire du motif. Mais en même temps, de plus en plus, les peuples revendiquent que c'est des motifs qui appartiennent à leur culture. Et ça me fait un peu penser à ça. Enfin, le fait que tu aies créé cette fonte en vectoriel qui permet de créer des motifs, des dessins, n'importe qui est libre de pouvoir créer, imaginer tout un monde, des dessins avec tes trames, avec ton motif. Quand on apprend à faire du tricot, des choses comme ça, y a des motifs qui sont déjà prêts qu'on peut réutiliser pour faire ce qu'on veut, quoi. Ça me fait un peu penser à ça. Après, pour la question de qu'est-ce qui est libre, à qui appartient des choses, c'est compliqué de répondre à cette question. Mmh. C'est un sujet qui existe chez les designers de motifs, de matériaux, de textiles.
C'est vrai que quand c'est un ASCII art, c'est qui c'est celui qui a fait la fonte ou celui qui a fait le dessin, l'auteur ou les deux ou... Et si rapidement, si vous voulez dessiner de l'ASCII art avec JGS, je crois que Raphaël il a prévu un petit logiciel sur Velvetine.
Non, ça marche pas.
Mais ça tombe bien puisque je vais m'en montrer un autre. Il y a des gens avec qui je fais des ASCII qui ont fait un site pour dessiner avec la JGS qui s'appelle fungi.neocities.org. C'est avec la JGS 5 et le but c'est de dessiner des champignons. Et du coup, tout ça c'est des gens qui ont dessiné des champignons. Et il y a des liens vers leur site. Par exemple, si vous avez un site à à partager. Vous pouvez faire un dessin, mettre votre site et il y aura un lien vers votre site sur cette page avec votre dessin. C'est Polydox qui a fait cette page. Il fait un travail super intéressant. Il fait du jeu vidéo aussi. Il fait des fontes bitmap pour dessiner de la ski. Il a aussi une petite histoire de la ski. Il a fait aussi une page sur un peu qu'est-ce que c'est la ski art de son côté. C'est un peu un truc propre à tous les ski art de faire des pages sur qu'est-ce que c'est la ski un peu. Et du coup là, moi ce que j'aime bien c'est que jamais j'aurais dessiné comme ça avec. Pourtant des gens ils dessinent comme ça avec. Où il y a des combinaisons de caractères. Par exemple, moi j'aurais jamais pensé à dessiner un petit personnage comme ça.
Pourtant c'est pas grave.
C'est avec ta type ou ça ?
Ouais.
Je propose de poursuivre en mode informel cette conférence. On va remettre les tables au centre. Merci Adèle pour ton intervention.
Merci.